On va parler des défis rencontrés par les élèves ayant un handicap, soit visuel ou auditif, depuis le début de la pandémie. Et pour ce faire, nous allons avoir Claire Moussel, qui est directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, et Geneviève Genet, qui est intervenante, accueil et soutien à l'ACPEV, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour. Madame Moussel, Madame Genet, évidemment, vous êtes des parents impliqués dans l'éducation puis la croissance personnelle d'enfants qui ont des problèmes soit auditifs, soit visuels. Alors, la pandémie vous a certainement causé beaucoup de soucis, mais pas exactement de la même façon. J'aimerais savoir comment vous vous en êtes sortis. D'abord, comment ça s'est passé au début, le Zoom, pour vous, Madame Moussel?
Alors, c'est vrai que l'utilisation de Zoom s'est rentrée dans nos habitudes petit à petit, mais forcément pour des élèves, des jeunes avec une surdité, ça venait avec tout un tas de défis. Donc, il a fallu expliquer, sensibiliser, apprendre à bien utiliser cet outil, tant du côté des enseignants que des élèves eux-mêmes. Et puis petit à petit, c'est rentré dans les habitudes. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui, en plus, a amélioré son accessibilité. Donc c'est sûr que ça a aidé, avec tout de même quelques bémols, parce que ça reste une communication avec certains obstacles visuels, forcément.
Et je pense, Mme Genet, qu'on ne peut pas dire par ailleurs que tous les élèves qui ont des difficultés ou qui vivent avec un handicap visuel ont été nécessairement bien servis de cette façon-là. Il y avait, je pense, des lacunes à certains endroits sur l'aide technologique qui leur était apportée.
Absolument. En fait, que ce soit Zoom, Teams ou Google Class, par exemple, c'est pas tant non plus les plateformes virtuelles là, qui ne sont pas accessibles. Parfois, oui, mais c'est une question aussi de formation. Des élèves qui les utilisent, du personnel aussi qui enseigne à l'autre bout. Donc, il faut s'assurer que le professeur transmette de l'information de façon accessible, que ce soit pas que visuel, que ce soit bien nommé, qu'on l'entende bien aussi. Parfois, le micro fonctionne pas bien, il y a des choses qui sont affichées à l'écran que l'enfant, l'élève qui a une déficience visuelle ne voit pas. Donc ça peut être, ça s'est rendu le début de la pandémie de l'école à distance plutôt difficile pour plusieurs élèves qui ont des sciences visuelles. Puis, je dirais qu'après les fêtes, là, certains élèves qui ont eu la chance d'avoir un bon service de l'équipe école et du centre de réadaptation, qui ont travaillé ensemble, qui ont collaboré ensemble pour prévoir un peu, puis mettre en place des choses, dont une formation. Par exemple, c'est juste de recevoir une formation sur comment utiliser Google Class, comment naviguer sur Internet pour que ça fonctionne bien avec Jazz, avec la synthèse vocale et tout ça. Donc, c'est un exemple pour démontrer que l'élève qui est bien soutenu par la réadaptation, par l'équipe école, va être en mesure d'utiliser cet outil-là. Il va être capable de le faire de façon beaucoup plus autonome, ce qui n'était pas le cas nécessairement au début de la pandémie, là, quand tout le monde a dû se réadapter rapidement et qu'il n'y avait pas ce soutien-là. Ce service-là n'était pas toujours accessible. Puis c'est encore le cas, des fois, dans certaines régions, certaines écoles, certains centres de services scolaires. Malheureusement, les services ne sont pas les mêmes partout. Donc,
C'est pas encore tout à fait égal. C'est sûr que le printemps dernier, on était tous en mode panique. Là, et malheureusement, quand on est en mode panique, c'est souvent les plus faibles et les différents qui sont laissés en dehors de la chaloupe au moment où le bateau coule. Mais par ailleurs, maintenant, on commence à avoir une habitude, c'est terrible à dire, mais ça fait un an qu'on procède de cette façon-là. Alors, vous avez vu des améliorations, autant de votre côté, Mme Moussel, que Mme Genet, oui?
Mais dans le fond, je vous dirais qu'il y a vraiment eu différentes phases, en effet, et au moment de cette panique, justement, au tout début de la pandémie, il y a vraiment eu une mobilisation du côté de la communauté pour essayer de trouver des solutions et anticiper la reprise de l'école. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a développé beaucoup, justement, de matériel, d'outils, de consignes pour essayer d'apprendre à faire autrement, justement, avec ce contexte-là. Et en effet, petit à petit, c'est rentré dans les habitudes, mais c'est vrai qu'on fait face à cette réalité d'inégalité d'une région à l'autre, d'un centre scolaire à l'autre. Donc c'est pas mal ça. Je pense que ça va être la même chose du côté de Geneviève, au niveau de ces constats-là.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a eu des améliorations. Autant les élèves ont pu s'adapter que, j'imagine, le personnel scolaire aussi. mettre des choses en place aussi avec le temps et des choses qu'on, c'est avec la pratique qu'on s'améliore. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Au début, c'était plus de répondre aux urgences et tout ça. Mm-hmm. Ils sont allés avec, ils ont dû prioriser aussi. Donc, comme vous disiez, c'est exactement ça. La minorité, souvent, est oubliée ou laissée pour compte dans tout ça. Donc, d'autres personnes qui sont très bien soutenues, qui sont très bien informées aussi de leurs droits, de ce qu'ils peuvent aller chercher ou demander l'information. Donc, il y en a qui ont quand même été bien servis, qui ont pu demander à avoir accès à leurs outils ou à l'information.
Souvent, c'est des petites choses. Je pense, entre autres, au moment du retour en classe, le masque avec une fenêtre. Pour les enfants qui ont des problèmes auditifs, c'est important de pouvoir lire sur les lèvres de son interlocuteur. Ça fait partie de l'apprentissage. Il y a eu, à un moment donné, il n'y avait pas de masque avec des fenêtres. Puis après ça, il y a eu une controverse à savoir est-ce qu'ils sont de bonne qualité ou presque. Puis après ça, il y a eu un effort massif de distribution. Est-ce que c'est derrière nous, cette situation-là?
Je vous dirais que c'est toujours en cours, étant donné qu'il faut continuer de sensibiliser, d'expliquer quel type de masque peut être utilisé, sachant que selon la CNESST, il faut utiliser des masques de procédure, donc homologués. Et aujourd'hui, on a une entreprise au Québec qui fabrique ce genre de masque-là. Le réseau de l'éducation a passé une commande pour pouvoir les distribuer dans tout le réseau. Maintenant, il faut s'assurer que ces masques-là se rendent bien jusqu'aux intervenants, jusqu'aux équipes écoles qui interviennent auprès des élèves qui en ont besoin. Et il faut s'assurer aussi que cet approvisionnement soit continu et suffisant, parce que la situation va durer encore un petit moment.
Oui, exact. Et du côté des personnes qui ont un handicap visuel, parce que c'est une situation que je vis moi-même quand je vais faire mes épiceries, la notion de distanciation, là, puis comment le mobilier change de place et où se trouve tout le monde, ça, je pense, ça a dû poser des problèmes particuliers pour les enfants qui vivent avec un handicap visuel.
Avec le port du masque, bien, si c'est concernant l'écolocation, c'est sûr que j'ai pas eu de feedback d'expérience d'enfant par rapport à ça, mais je sais que ça l'affectait, par exemple, au niveau de la concentration de l'enfant, au niveau du confort, le port du masque par l'enfant lui-même. Mm-hmm. C'est sûr que par les adultes, peut-être au niveau de ceux qui utilisent l'écolocation, sinon les autres qui ont une basse vision ou un résidu visuel, c'est au niveau souvent de l'attention, des repères aussi. Par exemple, quand ils croisaient de près un adulte, ils pouvaient se représenter, c'était qui, leur professeur, par les cheveux, la barbe, donc le visage autour de la bouche qui est caché par le masque. C'était quand même des éléments d'information importants, pas parce qu'ils lisaient sur les lèvres.
Mais qu'ils reconnaissaient la silhouette de la personne ou sa physionomie un peu.
Oui, par le visage, donc par la barbe et par les cheveux et tout ça, donc ce qui est souvent recouvert là, avec le masque ou les visières aussi, là. Donc, c'est plus à ce niveau-là les commentaires que j'ai eus.
Dans l'éducation, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'un enfant ne prenne pas du retard dû à un problème d'adaptation à son milieu qui fait que ça exacerbe le handicap avec lequel il ou elle vit. Est-ce que vous pensez que depuis le début de la pandémie, maintenant ça fait un an, les jeunes, soit qui vivent avec de la surdité ou qui ont un handicap visuel, est-ce qu'ils commencent à avoir un retard qui s'explique, en partie par la pandémie? Est-ce qu'il commence à y avoir un glissement derrière ou on semble avoir tenu le fort?
Alors, de notre côté, ça semble assez difficile à évaluer. On va avoir des cas particuliers qui nous sont remontés, évidemment. Mais très honnêtement, c'est encore un peu tôt pour évaluer ces impacts-là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il va y en avoir, rien qu'au niveau des masques, en fait, c'est un tel obstacle à la communication pour les élèves qui vivent avec une surdité. C'est sûr qu'il y a des choses qui se perdent. Et puis avec tout le retard, avec l'école à la maison, les classes qui ont été fermées, c'est sûr qu'il va y avoir un impact. Donc il va falloir rester vigilant dans les prochains mois, voire années, parce que là on parle de l'impact, mettons, académique, pédagogique, mais il y a tout l'impact social aussi.
au niveau du développement des aptitudes sociales, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un impact, il va falloir surveiller ça. Et ce ne sera pas le même non plus d'une région à l'autre.
Absolument. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une perte des acquis, effectivement, au niveau social, mais au niveau de la réussite scolaire aussi. Dû à tout le contexte aussi, le stress, l'isolement vécu à cause de la pandémie, mais aussi dû au fait des problèmes d'accessibilité, justement, de l'école à distance, ou même à l'école, que ce soit relié à toutes les mesures, puis tout ça, ça augmente le niveau de difficulté, ça augmente le stress et tout ça.
Parce que quand on... allez-y. Oui.
Ben, j'allais dire l'accès à l'information aussi. Il y en a qui ont été privés de leurs livres en agrandi ou en braille. Donc, ils n'avaient pas accès à l'information pour suivre la matière au même titre que les autres. Il n'y avait pas nécessairement l'accompagnement dont il y avait besoin non plus, autant service d'équipe école, réadaptation, mais des parents aussi qui ne pouvaient pas être en mesure de bien accompagner leurs enfants ou qui étaient occupés en télétravail ou autre. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que c'est sûr que ça remet en question... au niveau de la réussite scolaire puis au niveau social aussi.
Oui, les acquis, c'est important parce que si on ne se sert pas de ce qu'on vient d'apprendre ou ce que l'on a appris au cours des premières années de notre vie, si tout d'un coup, on reste à la maison puis on ne sort jamais la canne blanche ou on n'est jamais dans un contexte social puis qu'on n'est pas capable de briser l'isolement parce qu'on est isolé de force, bien là, à ce moment-là, les acquis commencent à s'user, à rouiller. Puis au moment de la reprise, les enfants qui vivent avec des handicaps, soit de surdité ou visuel, vont avoir une pente à remonter. Alors, on souhaite que l'encadrement soit là pour les aider. Ça n'a pas toujours été le cas, mais gardons espoir. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Moussel, Mme Genet. Mme Claire Moussel est directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. Et Mme Genet, intervenante, accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Merci et bonne journée, mesdames.
Merci, bonne journée.